Alors, je vais essayer de vous donner les quelques résultats auxquels nous sommes déjà parvenus dans notre groupe de travail sur le bréviaire d'Alaric, qui, comme vous le savez, a été promulgué en 506-507 au nom d'Alaric II, roi des Visigoths. Mais bien qu'il s'agisse d'un pouvoir politique officiellement visigothique, en réalité, nous avons affaire à une proclamation 30 ans après la chute de l'Empire romain, nous avons affaire à une proclamation de la supériorité de la civilisation romaine et de la conception romaine du monde. C'est une affirmation d'identité romaine, et ceci sans qu'il y ait d'intervention de la population visigothique qui normalement se trouve en Aquitaine à ce moment-là, c'est-à-dire probablement aux alentours de 80 000, 100 000 personnes. Et ce texte juridique est l'œuvre conjointe des jurisconsultes romains, dont certains même devaient être d'anciens fonctionnaires de l'Empire romain, et des évêques qui ont étaient la plupart du temps eux-mêmes d'anciens fonctionnaires, car nous avons la preuve que, Sidoine Apollinaire le dit en toutes lettres, bon, l'Empire est tombé, c'est fini, passons à l'Église, et en tant qu'anciens fonctionnaires, nous allons continuer la romanité dans la hiérarchie ecclésiastique. Il y a donc une affirmation continuelle avec un refus de l'autre dans ces textes, refus qui n'est jamais explicitement prononcé. C'est une affirmation de l'éternité de la loi romaine, qui est une loi extrêmement ancienne, puisque effectivement à cette époque-là, cette loi a déjà plus de 1000 ans d'existence. Hein, le premier manifeste de la loi romaine, ce sont les lois qui ont été promulguées en 450-451 avant Jésus-Christ, la loi des 12 tables. Et il s'agit de montrer que cette loi ne bouge pas. Et il est très curieux de voir que cet abrégé du bréviaire d'Alaric, qui est un abrégé du code théodosien, comporte d'une part, le texte de la loi avec les noms des empereurs, le lieu et la date de promulgation de la loi, et les jurisconsultes et les évêques qui ont fait ce texte de loi, cet abrégé, cette sélection, cette espèce de digest de la loi romaine, ils l'ont fait en mettant la loi avec les noms des empereurs et en ajoutant une interprétation qui n'existait pas jusqu'alors dans les lois romaines. Ce qui fait que nous avons un système juridique d'une extrême souplesse. Un, la loi ne bouge pas, mais deux, l'interprétation est là pour arriver à s'adapter à la situation du moment, et s'adapter à la situation du moment sans dire qui l'on refuse. Or, on refuse continuellement quelqu'un dans cet abrégé de la loi romaine. Il y a donc la juxtaposition des lois et des interprétations qui permet en même temps l'affirmation de l'État, de la res publica, et cette affirmation de l'État va vers une proclamation finalement abstraite de la loi qui va petit à petit décoller la loi de la tâche aux personnes. Ce qui explique que l'on est en fait dans ce bréviaire d'Alaric, d'une part le refus de l'étranger, d'autre part le refus du roi, et d'autre part le refus des mineurs. On refuse successivement toute une série de catégories de personnes dont on ne veut pas. Ce texte du bréviaire d'Alaric est donc une concession. Une concession faite par le roi des Visigoths, Alaric II, à la suite de trois échecs successifs où le royaume wisigoth d'Aquitaine a failli disparaître, eh bien, le roi Alaric II finit par accepter la promulgation de cette loi en ignorant les Wisigoths et le concile d'Agde qui avait été promulgué quelques mois auparavant avait arraché cette concession au roi des Wisigoths de telle manière que on espérait que enfin l'accord entre les deux populations allait pouvoir arriver. Or, dans ce bréviaire d'Alaric, on est d'abord étonné par le fait que pas une seule fois il n'ait fait allusion aux Wisigoths. Pas un mot sur les Wisigoths, et même quand il s'agit d'une mesure qui les concerne directement, à savoir l'interdiction des mariages mixtes entre Wisigoths et Romains. Hein, au chapitre 3, loi numéro 14, il est question d'interdire les mariages entre les Romains et les Wisigoths, et il est précisé que ceux qui auront contrevenu à cette loi seront condamnés à mort. Mais dans le texte même de la loi, il n'est pas question de nommer les Wisigoths. L'interdiction des mariages mixtes est très nette, et dans l'interprétation, l'interprétation est même encore plus dure que la loi elle-même, puisque l'interprétation précise, hein, à aucun peuple barbare, il ne sera permis de pratiquer un mariage mixte avec les Romains. C'est donc une fin totale de non-recevoir qui est un véritable refus de l'altérité. Et ce refus de l'altérité finit par être atténué quelque peu dans un cas particulier, dans un cas précis, le cas des Juifs. Vous savez que Jules César a accordé aux Juifs le privilège de la citoyenneté romaine, puisqu'ils ont accepté de prier pour l'empereur, et donc il y a une, même après la proclamation du christianisme religion d'État en 382, même après cela, il y a une deuxième religion qui est autorisée, religio licita, une religion permise, c'est la religion juive. Eh bien, que fait le bréviaire d'Alaric dans le cas des Juifs? Ils sont des citoyens romains. Donc, ils ont le droit de plaider et d'agir en justice selon les tribunaux romains. Mais, le bréviaire d'Alaric précise bien, attention, pour les affaires religieuses typiquement juives et propres aux Juifs, ils s'adressent à leurs propres institutions religieuses. C'est une exception, c'est la seule exception où il y a en quelque sorte une altérité, une étrangeté qui est accepté par le bréviaire d'Alaric. Et dans le cas du judaïsme, qui est la seule religion légale en dehors du christianisme, dans le cadre de l'union de l'État de 380, de l'union de l'Église et de l'État de 392, il est bien précisé qu'ils peuvent ainsi exercer leur religion. Un autre article peut être ajouté cependant à cette limitation, à savoir le fait qu'il aurait interdit d'être propriétaire d'esclaves chrétiens à cause très probablement de la peur illusoire d'ailleurs, mais de la peur réelle des chrétiens de voir s'étendre un certain prosélytisme juif qui se ferait aux dépens des chrétiens. En réalité, nous avons une application d'un véritable compromis qui a été conclu avant 506-507. C'est très net dans l'application du compromis quand on regarde le livre 16 du bréviaire d'Alaric, qui correspond au livre 16 du Code théodosien. Le livre 16 du Code théodosien traitait spécialement et uniquement des questions religieuses, à savoir des questions, des rapports entre le christianisme et l'État romain. Eh bien, cette spécificité du livre 16, on voit tout de suite que le compromis avec les Wisigoths a été appliqué, mais on ne le dit pas. C'est toujours le silence le plus total sur la question. On ne le dit jamais. Les lois anti-ariennes du livre XVI, qui condamnaient formellement l'existence de l'hérésie et des autres hérésies autres que l'arianisme, ces lois anti-ariennes du livre XVI du Code théodosien ne figurent pas dans le bréviaire d'Alaric. Elles ont été supprimées. On a appliqué le compromis. Donc pas d'hostilité avec les Visigoths, pas de contact. Hein, pas de mariage mixte, on ne s'occupe pas de leur religion, on ne s'occupe pas de leurs idées, on leur laisse leurs idées, et on pratique plus ou moins consciemment la confusion entre identité ethnique et identité religieuse. C'est la Lex Gothica qui est en même temps la loi des hérétiques ariens. On n'en parle pas, et on laisse ceci dans le silence le plus total. Donc, cette confusion entre identité ethnique et identité religieuse prouve que l'on continue à appliquer le compromis, on refuse l'étranger, on refuse l'autre, et on espère que de cette manière-là, le conflit n'aura pas lieu. Il n'empêche qu'à certains moments, d'autres indices de l'hostilité envers l'autre apparaissent dans le bréviaire d'Alaric. C'est le thème en particulier, le thème de la sauvagerie barbare, qui est un thème récurrent à travers le texte du bréviaire. C'est ainsi, par exemple, qu'au livre 7, la loi numéro 11, il est interdit aux barbares, dit la loi, de dépouiller les Romains. C'est le seul cas où on a des noms propres de peuples qui sont précisés, uniquement les noms propres des Romains. Donc il est interdit aux barbares de dépouiller les Romains, et dans l'interprétation, là aussi c'est très curieux, on enlève le mot barbare, pas de problème, faut surtout pas provoquer les gens, et on remplace le mot barbare par les ennemis. Un terme beaucoup plus neutre, il est interdit à l'ennemi de dépouiller les Romains sous la peine de mort, évidemment, qui est précisée à chaque fois. De même, au livre 5, paragraphe 2, on voit disparaître le terme de sauvagerie barbare. On est extrêmement gêné parce que quand les pillages de Romains sont le fait des soldats, on peut pas dire qui sont ces soldats. On sait très bien que puisqu'il n'y a plus d'armée romaine, les soldats sont visigoths, donc on enlève le terme soldat et on laisse supposer qu'il y a des brigands, en quelque sorte, qui sont là à attaquer les Romains. De même, au livre 15, le terme de ravage des barbares, lorsque les barbares viennent menacer les populations de les massacrer s'ils ne cèdent pas à leurs exigences, eh bien, dans l'interprétation, une fois de plus, le terme « ravage des barbares » disparaît dans l'interprétation. On est hostile, mais on essaie de calmer le plus possible les choses. Il y a donc, si vous voulez, dans ce premier thème du bréviaire d'Alaric, il y a donc un refus de l'altérité, par la censure du nom des peuples étrangers. On ne veut pas parler des peuples étrangers. On fait le silence sur tous les termes péjoratifs qu'on essaie de faire disparaître. Et on aboutit à une affirmation quasiment unique des Romains et des chrétiens. Un peu moins, d'ailleurs, parce que la christianisation du bréviaire d'Alaric est relativement faible. Cette affirmation du phénomène romain est particulièrement nette dans la loi du livre 5, numéro 1, lorsqu'il est question du droit du post-liminium. Le droit du post-liminium était un droit romain tout à fait intéressant. Ça voulait dire que lorsque les Romains sont prisonniers de guerre et qu'ils se retrouvent en territoire barbare de l'autre côté du Rhin ou du Danube, eh bien, s'ils sont libérés et qu'ils reviennent dans le territoire romain, le retour de ces anciens citoyens romains chez eux leur donne le droit de récupérer tous leurs biens anciens. C'est-à-dire qu'ils récupèrent tous leurs droits de citoyens romains, aussi bien leurs esclaves que leurs femmes. Quand la femme, par suite de la trop longue absence du prisonnier, on finit par se remarier. Et ce droit du post liminium a certainement créé des problèmes épouvantables dans certains cas, le cas le plus célèbre étant après la prise d'Aquilée en 451 par Attila. Les prisonniers de guerre faits par Attila sont revenus en Italie 9 ans après l'année 451, et l'évêque d'Aquilée lève les bras au ciel en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Les prisonniers qui reviennent et qui réclament l'application du droit du post liminium, ils ont trouvé leur femme mariée. Qu'est-ce que je fais ? Et il y a une lettre de l'évêque d'Aquilée à l'évêque de Rome, Léon, et Léon lui répond « Mais pas du tout, il faut que ces femmes reprennent leur mari qui est revenu. C'est le droit du post liminium qui doit être appliqué normalement. » Autrement dit, les lois romaines sont en quelque sorte permanentes. Elles sont supérieures au temps et aux événements. Et si, dans les lois que je vous ai citées, les barbares sont remplacés par les termes des ennemis, ça veut dire que les droits du citoyen romain sont des droits absolument imprescriptibles, que ces droits doivent être respectés quoi qu'il en soit, d'autant plus qu'il y a des cas où c'est contrairement à leur volonté que tel événement s'est produit. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant pour comprendre cette pérennité de la loi romaine et son refus de l'étranger, ce refus de l'autre. Non seulement il y a refus des étrangers, refus de l'autre, mais il y a aussi refus du roi. C'est très intéressant. Normalement, les lois romaines sont proclamées par les empereurs. Et cette proclamation par les empereurs, normalement, le roi des Visigoths est, depuis 455, depuis que Euric, roi des Visigoths, a rompu le traité d'alliance avec l'Empire romain, normalement, le roi des Visigoths est le successeur légitime, légal de l'empereur. Il est donc, en quelque sorte, le gardien de la continuité juridique. Or, il a beau être officiellement celui qui, juridiquement et nominalement, est le continuateur, l'empereur, certes, n'est jamais nommé, l'empereur d'Occident qui a disparu et l'empereur d'Orient encore moins, l'empereur n'est jamais nommé et le roi des Visigoths non plus. Systématiquement, les lois ont beau être inscrites dans le bréviaire d'Alaric avec les noms des empereurs, dans l'interprétation, il est toujours question des principes, du princeps ou encore dominus. Jamais le terme de roi n'apparaît. On ne veut pas reconnaître que le roi des Visigoths peut intervenir dans l'interprétation. Il y a là quelque chose de tout à fait original. Le roi des Visigoths n'est qu'un simple garant qui est là pour authentifier de manière purement artificielle et purement volontariste l'existence de la loi romaine. Le terme de rex est absolument absent du bréviaire d'Alaric. Et je ne l'ai trouvé qu'une seule fois dans les tituli du bréviaire d'Alaric. Encore faut-il se rendre compte que c'est une bévue du scribe qui a une seule fois mis le terme de rex dans un texte largement postérieur à la promulgation de 506-507. Donc, la loi est indépendante du prince. Alors là, c'est un phénomène complètement nouveau. Alors que dans l'Empire, la loi était l'œuvre du prince, était émanée directement du prince. Ici, la loi est coupée du prince, la loi est autonome en elle-même, elle est coupée de tout pouvoir politique. Il n'y a plus aucun lien avec le monde politique Et c'est une loi qui désormais devient la propriété des jurisconsultes, de ceux-là même qui sont à l'origine du choix et de la rédaction du bréviaire d'Alaric. Les jurisconsultes, en quelque sorte, accèdent à la domination et à la fabrication de la loi, et très certainement à la fabrication des interprétations à la suite de chaque loi. Il y a donc un phénomène d'indépendance de la loi, et l'empereur est complètement ignoré. Je n'ai trouvé qu'un seul cas, une seule exception, la fête anniversaire de l'empereur. Alors, dans ce cas-là, on parle du prince du début du règne du prince. Mais c'est absolument la seule mention. C'est tout à fait par hasard. C'est peut-être en constatant que ces lois disent que ce sont les maîtres domini ou principes qui sont à l'origine de la fabrication de la loi, qui a dû faire croire à Montesquieu que la justice est totalement indépendante du pouvoir politique. Les grands principes du XVIIIe siècle ont dû très certainement venir de la lecture du bréviaire d'Alaric, où évidemment la justice est indépendante de la politique. Donc ce sont les jurisconsultes qui tranchent selon la loi. Jamais le roi n'interprète la loi. Et ces jurisconsultes, on les nomme et on insiste sur les noms des jurisconsultes. Et on dit que ce sont eux qu'il faut lire pour savoir quelle est la loi qu'il faut appliquer, à savoir des jurisconsultes comme Gaius, Papinien, Paul, etc., qui sont effectivement ajouté au bréviaire d'Alaric, car après le texte du bréviaire d'Alaric, nous trouvons une citation intégrale de Gaius et une citation intégrale de Paul avec des interprétations qui n'existaient pas dans les publications antérieures. Donc les jurisconsultes continuent quasiment à faire avancer la loi de leur propre mouvement et de leur propre initiative. Le droit du prince n'est précisé que dans certains cas. Les biens privés du prince, on ne peut pas s'en passer, là, puisqu'il a des propriétés personnelles, hein, et le droit d'appel pour les dons faits par le prince. Alors là, on ne peut pas se dispenser d'accorder au roi une certaine participation à l'intervention dans l'application de ses privilèges. Mais le droit public, le droit privé, aucune intervention du roi. Et c'est la preuve que nous sommes dans une justice complètement libre, une séparation de la justice d'avec l'État, et une séparation telle que, et c'est probablement l'une des grandes faiblesses de la loi romaine qui a existé jusqu'à la Révolution française, cette séparation est telle qu'il n'y a pas d'accusateur public. Ça a été la grande faiblesse de la loi romaine. Comme il n'y a pas d'accusateur public, n'importe qui peut devenir accusateur. N'importe quel citoyen peut devenir accusateur. C'est la fameuse histoire des sycophantes qui existait dans la loi grecque. La loi grecque avait la même faiblesse, il n'y a pas d'accusateur public. Donc, comme il n'y a pas d'accusateur public, le délator, celui qui pose les accusations, est une personne privée, et une personne privée qui très souvent est intéressée à la condamnation, puisqu'elle a droit à une partie de l'amende qui est infligée à la personne qui a été condamnée. Donc, on est devant un système tout à fait autonome, avec un accusé qui est censé être innocent avant qu'il y ait inscription de l'accusation, inscription par écrit de l'accusation. Et il y a aussi un autre phénomène qui est caractéristique de cette loi romaine, c'est le principe de la légitime défense. Il n'y a pas de meurtre quand quelqu'un est en état de légitime défense. Et cette légitime défense est appliquée contre les pillards, alors qu'autrefois c'était contre les barbares. Donc ça veut dire que même contre l'étranger ou le Visigoth, la légitime défense intervient. Le terme de soldat d'ailleurs est éliminé, c'est tout à fait révélateur. Autrement dit, quand on étudie avec soin cette élimination du roi de la justice, nous sommes devant un véritable refus de la nouveauté. La loi est absolument éternelle. Elle ne bouge pas. Elle a toujours été affirmée. On continue à l'appliquer. Et l'interprétation est là pour permettre d'appliquer la loi quand il n'y a pas coïncidence exacte entre une loi ancienne et la situation du moment. Ça veut dire qu'en même temps, la loi ne peut pas être modifiée par le prince. Le prince n'a aucune autorité sur la modification de la loi. Et c'est encore plus net dans le cas des châtiments qui sont infligés, puisque normalement, comme le disait la loi des 12 tables au 5e siècle avant Jésus-Christ, la vengeance obligatoire est supprimée et remplacée par la peine, par le châtiment. Ça fait plus de 1000 ans que la peine est une caractéristique de la loi romaine. Et parmi ces châtiments, il y a des châtiments qui sont encore des châtiments d'origine religieuse plus ou moins païenne. La notion d'infamie, qui est une religion typiquement, une précision typiquement religieuse archaïque. La notion de sacrilège et finalement la notion de justice éternelle. Nous sommes encore fort proches des liens d'origine religieuse archaïque avec les plus anciens intervenants dans la fabrication de la loi romaine. Donc refus de l'étranger, refus de l'autre, refus du roi, refus du mineur. Les refus et les marginalisations opérés par le brevet d'Alaric sont successifs et aboutissent à toute une série d'affirmations de principes dont nous ne nous rendons plus compte à quel point ils étaient tout à fait éliminants pour les étrangers, parce que nous y sommes habitués aujourd'hui et que nous considérons que cela va de soi. Mais songez que parmi ces principes, nous avons d'abord l'expression d'un véritable sentiment de supériorité du citoyen romain sur les autres, qui ne sont pas citoyens, grâce à l'autonomie de la loi qui ne dépend de personne, sauf les juristes qui la promulguent. Et nous trouvons des principes qui, aujourd'hui, nous sont absolument familiers, parce qu'ils ont une postérité inouïe, mais toujours dans cette perspective du refus des autres. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans le livre 1 du bréviaire d'Alaric. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que ceux qui ne savent ni lire ni écrire doivent connaître la loi. Autrement dit, les barbares ne peuvent pas prétexter de leur ignorance de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Il ne peut pas y avoir, vous allez me dire que c'est d'une actualité brûlante, il ne peut pas y avoir de rétroactivité de la loi, c'est en toutes lettres dans le bréviaire d'Alaric. Il ne peut pas y avoir de preuve orale déterminante. La preuve écrite a prédominance dans le bréviaire d'Alaric. Et personne, autre point qui nous paraît à nous tout à fait normal, mais qui était incompréhensible pour ceux qui n'étaient pas de civilisation romaine, eh bien, il est évident que l'on ne devait pas comprendre le principe selon lequel personne ne peut être à la fois juge et partie. Et c'est exprimé en toutes lettres dans le bréviaire d'Alaric. Mais ce qui est encore plus intéressant et encore plus révélateur, c'est l'affirmation qu'il y a, en dehors des citoyens, des gens qui ne sont pas citoyens, ou même si potentiellement ils peuvent devenir citoyens, ils ne sont pas majeurs. La majorité est décrétée par la loi romaine et par le bréviaire d'Alaric. La majorité est déclarée à 25 ans. qui est déjà totalement différent des lois germaniques, puisque la majorité dans les lois germaniques est à 14 ans. Donc la majorité est à 25 ans, et elle définit les incapables en justice. Il y a des gens qui ne font pas partie de la justice, qui ne sont pas justiciables, et s'ils peuvent faire appel au prince dans certains cas, il y a effectivement des mineurs qui peuvent parfois faire appel au prince, mais on se rend compte que ces appels sont tout à fait exceptionnels. Et si la majorité est fixée à 25 ans, cette règle s'applique aux femmes et aux enfants, et surtout dans ce qui concerne les femmes n'ont pas de personnalité juridique. C'est dit en toutes lettres, elles sont totalement éliminées de toute action en justice, elles ne peuvent pas faire d'accusation en public. Et l'on retrouve le même principe pour les esclaves. Certes, on ne trouve pas l'expression pour désigner les esclaves d'instrumentum vocale, à savoir d'outils qui parlent. L'esclave défini comme une pelle ou une pioche qui parle. Non, ils n'ont pas d'expression juridique, sauf dans un seul cas, mais un seul cas qui est contradictoire. Lorsqu'il y a eu un adultère dans la maison du maître, on peut mettre les esclaves à la torture pour savoir si effectivement il y a eu adultère. Alors à ce moment-là, on accepte le témoignage des esclaves qui ont avoué sous l'effet de la torture. Mais c'est encore une exception. Donc, il n'y a pas de personnalité juridique pour les esclaves chrétiens et pour les esclaves en général, et il n'y a pas de liberté du mariage, malgré l'adage d'Ulpien, consensus facit nuptias, étant donné que si on traduit par consensus facit nuptias, c'est le consentement qui fait le mariage, on oublie que la plupart du temps, les mariages dans la perspective romaine avaient lieu avant l'âge de la majorité. Et par conséquent, en réalité, il n'y a pas de liberté dans le mariage, puisque ce sont les parents qui en décident. Et cette absence de liberté dans le mariage va jusqu'à une interdiction pour les veuves, ce qui va être d'ailleurs un objet de conflit avec l'Église, puisque l'Église a tout de suite, dès les origines, accepté le remariage des veufs et des veuves. Enfin, pour être bien sûr de cadenasser les femmes, il y a une obligation de la tutelle des femmes sous la direction de l'oncle paternel. Nous sommes donc dans un régime officiellement patriarcal, et l'oncle paternel, au livre 3, la loi numéro 17, il y a obligation de la tutelle des femmes par l'oncle paternel, et s'il y a des enfants naturels dans le mariage, ces enfants naturels sont à peine tolérés. On accepte vaguement qu'un douzième de l'héritage leur soit accordé de manière tout à fait exceptionnelle. Ils ne peuvent pas succéder. Ils ne peuvent pas succéder à leur père non plus qu'à leur mère. Et la situation pour certains est encore plus grave, puisque lorsque la mère et servile, lorsqu'elle est esclave, c'est le fameux principe de droit romain partus sequitur ventrem, c'est-à-dire que le fruit de l'accouchement suit le ventre. Si la mère seule est esclave, l'enfant de l'homme libre et de la femme esclave est lui-même esclave. Il y a donc curieusement un système matriarcal qui fonctionne de manière archaïque dans le cas des esclaves. Autrement dit, les bâtards, les spurii, n'ont absolument aucun droit. Ce sont des personnes sans existence. Voilà encore des gens qui sont éliminés de la justice. Et les enfants naturels qui ne peuvent succéder à personne, ce sont des personnes sans existence. Et cela veut dire que dans ces lois, finalement, le droit public est plus important que le droit privé. Et ce droit public fait une part très faible aux personnes privées. Songez que sur les 16 livres du Code théodosien, donc du bréviaire d'Alaric, sur les 16 livres, 11 concernent exclusivement le droit public. Donc la personnalité de l'État, en quelque sorte, surplombe l'ordonnance de la justice, donc de la société. Or, vous remarquerez que c'est le contraire dans les lois germaniques, puisque pour la loi salique en particulier, qui est plus ancienne, qui a été promulguée probablement vers 364, dans la loi salique, il y a 8 articles seulement de droit public. C'est bien la preuve que les lois germaniques, finalement, s'occupent uniquement du droit privé, et que peut-être, justement, dans certains cas, s'il y a eu accord et entente, c'est parce que, probablement, pour certains peuples germaniques, on leur a probablement appliqué des règles de droit public romain. Mais c'est une supposition de ma part. Je n'en ai pas la preuve complète. Enfin, on remarque dans ce bréviaire d'Alaric, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre, on remarque qu'il y a finalement une très faible christianisation. Pourtant, le bréviaire d'Alaric suppose l'union de l'Église et de l'État, qui date de la loi du 21 novembre 392. Donc il devrait y avoir des articles concernant le christianisme. Or, je vous ai déjà dit que pour le livre 16 en particulier, il y a très peu de lois concernant les questions religieuses, les hérétiques ayant été largement éliminés et balayés du texte du bréviaire d'Alaric. On trouve à peine une loi où il est question de christianisation. C'est le fait que le repos du dimanche, une loi de Constantin de 312, n'est pas oublié, et qu'il est précisé que lors du dimanche, on doit sortir les prisonniers de la prison et qu'on doit les amener au bain public. Une mesure d'humanité, c'est à peu près le seul cas où, avec le fait que les procès doivent s'arrêter pendant le carême, c'est à peu près le seul cas où l'on trouve des traces de christianisation. Mais finalement, la place de l'État est absolument capitale. Et les droits du citoyen romain sont finalement les droits d'un individu protégé par l'État et non pas par le groupe. Il n'y a pas de justice de groupe. D'ailleurs, c'est expressément dit, il n'y a pas de justice collective pour les proches. Il est rigoureusement interdit de faire des procès collectifs. C'est des justices, une justice individuelle. Donc il n'y a pas de co-jureur, comme dans les lois germaniques. Et le cas le plus évident de cette primauté de l'individu, c'est le fait que la preuve, toujours par écrit, la preuve doit être apportée, et là nous touchons ici un phénomène tout à fait contemporain dont peu de gens ont conscience, la preuve doit être apportée par l'accusateur, au livre 11, loi numéro 14, et jamais par l'accusé. Or, c'est dans toutes les lois germaniques que l'accusé doit apporter la preuve de son innocence. Or, vous remarquerez que un certain député français, directeur du FMI, n'a pu se tirer d'un mauvais pas qu'en payant une amende de composition, comme dans la loi germanique, alors que c'était à l'accusatrice de prouver la justesse de ses accusations en droit romain. Eh bien non, c'est lui qui a payé l'amende de composition. Ça veut dire que le droit anglo-saxon est capital dans le régime juridique actuel européen et que le régime du droit romain, selon lequel c'est à l'accusateur de faire la preuve de la justesse de son accusation, qu'il appartient de plaider. Le principe est très net. Actor incumbit praebitio. Actor forum sequatur. La justice implique que, puisqu'il y a accusation, l'accusation doit être prouvée par l'accusateur et non pas par l'accusé. Finalement, le droit romain du bréviaire d'Alaric, ce droit-là protège l'individu. Et c'est répété dans les nouvelles de Martien, de l'empereur Martien. Je signale que l'empereur Martien est le vainqueur des Huns en 451. Il est répété que c'est à l'accusateur de faire la preuve de la justesse de son accusation. Autrement dit, le droit romain protège un seul individu. Et le brillant d'Alaric protège le citoyen romain, majeur et masculin. Le citoyen romain est le seul individu qui sort de ce texte du bréviaire d'Alaric. Il y a, de la part de ces affirmations et de ces jurisconsultes du début du VIe siècle, une magnifique indifférence envers la réalité historique. Il n'y a pas eu de chute de l'Empire romain. Il ne s'est rien passé. Les Romains sont toujours là. Le citoyen romain seul jouit de l'authentique liberté romaine. Et ce sera mon dernier mot. Au fond, si l'on essaie de conclure sur cette loi du bréviaire d'Alaric, c'est une loi arrachée aux Visigoths par une majorité gallo-romaine, une loi romaine vieille de plus de 1000 ans, ça fait plus de 1000 ans qu'elle existe, et elle est renforcée par des jurisconsultes. Elle impose sa conception du droit naturel, du droit du citoyen, d'un droit supérieur à tous les peuples. Il y a là un complexe de supériorité absolument extraordinaire. Une loi qui se rend indépendante du pouvoir politique et qui met à part deux types de fonctionnaires, les juges et les membres du clergé. Les membres du clergé qui ne paient pas d'impôts dans le livre 16. Donc c'est bien la preuve que le citoyen romain est privilégié et que la création d'une romanité naturelle et structurelle est en quelque sorte voulue comme perpétuelle. Or, ce bréviaire d'Alaric, qui nous paraît si propre à l'époque des invasions dites germaniques ou des migrations de peuples germaniques, a eu une postérité absolument extraordinaire. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en long et en large, mais je rappellerai brièvement que ce bréviaire d'Alaric, avec ses résumés, les épitomées et les décurtati, qui datent des 7e, 8e, 9e siècles, ont été répétés et repris sans arrêt jusqu'au 13e siècle. Au 12e et 13e siècle, Yves de Chartres continue à citer le bréviaire d'Alaric, Fulbert de Chartres au 11e siècle, continue à citer le bréviaire d'Alaric. Et la postérité de ce texte est absolument extraordinaire parce que les papes, en reprenant des textes de loi du bréviaire d'Alaric dans leur décrétal, sont à l'origine de la naissance du décret de Gratien en 1140 et le droit canon qui est sorti du bréviaire d'Alaric, ce droit canon devient un code de droit complètement original et complètement propre à ses origines et conforme aux origines. On le retrouve constamment jusqu'à la dernière création ou recréation du code de droit canon en 1987. On retrouve ce droit canon dans la promulgation de certains textes des droits de l'homme en 1789. Enfin, je vous rappelle que la promulgation du code civil en 1804 et le fait de juristes imbus de droit romain, comme Bigot de Préameneux, Portalis et bien d'autres, et ce code civil qui a été imité et repris par plus d'une douzaine d'États européens, c'est la preuve que cette justice qui se voulait éternelle est quelque chose d'extraordinairement prétentieux et en même temps d'extraordinairement perpétuel, comme si le juriste, et ça sera mon dernier mot, comme si le juriste considère que l'autre, dans son altérité, dans sa différence, l'autre n'a pas le droit d'être ignorant.